Le 85e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat en partenariat avec Procivis, Ista, Salvia Développement, Sepia et ACT Commodities du 23 au 25 septembre 2025 sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour les amis. Voilà, on est toujours ici en direct du congrès de l'Union sociale pour l'habitat. On est dans le hall 6, le célèbre hall rénové par Jean Nouvel. Un très, très, très beau hall. Le hall 6, il est tout en haut. Vous ne pouvez pas vous tromper. On est ravis de vous accueillir ici avec nos amis de Procivis. Nous sommes en direct. Il est 10h54. Vous êtes sur IMO et sur Territoria. On va parler d'un sujet extrêmement important qui est celui de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et toutes les formes, effectivement, le rejet finalement global de la différence et des différences unis par un seul point commun, un dénominateur non négociable qui est celui de notre pacte républicain dans notre formidable République pour creuser, sans faire de jeu de mots, le sillon dans lequel nous sommes tous en commun. Et pour cela, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui, Mathias Hott, bonjour. Vous êtes délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Vous êtes rattaché au Premier ministre. Merci d'être avec nous.
Bonjour, merci pour votre invitation. Pardon.
Merci. Et merci également à Hermann Ebongué d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de SOS Racisme.
Merci beaucoup et merci de l'invitation.
Merci. Bonjour, Lisanne Lehay.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale adjointe du CISN à Saint-Nazaire. Merci d'être avec nous. Et vous faites partie également du réseau Procivis. C'est intéressant puisque vous avez ce regard un peu professionnel, entre guillemets, d'une activité au quotidien et à Saint-Nazaire. Et d'ailleurs, je souligne et je fais un petit clin d'œil à Mathieu Nédonchel, justement, sur les actions que vous avez menées pour l'hébergement d'urgence que vous avez fait. C'est absolument formidable dans la société aujourd'hui, puisque vous avez permis à des personnes qui étaient clairement à la rue d'être logées dans des situations décentes et dignes. Et ça, c'est important, puisque notre pays doit aussi rendre la dignité avec la décence du logement. On va commencer par quelque chose de plus général, si vous voulez bien. Je voudrais que vous décriviez, si vous voulez bien, Mathias Hott, votre activité, votre engagement, parce que ce que vous faites est absolument nécessaire, impérieux, justement, dans un pays, disons-le, qui ne va pas forcément bien en ce moment, qui est assez déchiré, qui est assez partagé. Et cette unité qui est prônée d'ailleurs par notre République, on en a bien besoin. On va commencer par vous pour présenter un peu ce que vous faites, Mathieu.
Alors moi je suis, vous l'avez rappelé, le titre est un peu long, mais c'est important de tout dire, délégué interministériel en charge de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et c'est vraiment un service de l'État, vous l'avez dit, rattaché au Premier ministre, tout à fait original, qui n'a d'ailleurs pas d'équivalent à l'échelle de l'Union européenne, puisque nous couvrons l'ensemble des haines dans notre pays. Et ça correspond à la tradition, et je sais que Hermann Ebongué pour SOS Racisme y est très attaché, également à la tradition universaliste. C'est-à-dire que nous, on ne découpe pas la société en tranches, on ne distingue pas et on hiérarchise pas entre les haines, on ne demande à personne de choisir entre lutte contre le racisme, lutte contre l'antisémitisme ou lutte contre toutes les autres formes de discrimination. On lutte contre chacune d'entre elles avec la même détermination, chacune a ses particularités, à commencer par l'antisémitisme qui frappe de plein fouet notre pays et l'Europe tout entière actuellement. Mais pour autant, il faut garder à l'esprit que toutes ces haines ont évidemment un certain nombre de ressorts communs, faits d'ignorance, faits de préjugés, faits de stéréotypes contre lesquels il faut lutter pour ne surtout pas avoir à hiérarchiser et à isoler ou à découper en tranches la société. C'est fondamental.
C'est formidable ce que vous dites parce que on sent tellement l'engagement, si vous voulez, dans cette fonction qui est à mon avis nécessaire, que ça ne peut qu'être tout le monde d'accord. Vous avez dit une chose du genre, souvent c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Hermann, SOS Racisme, bien évidemment, vous êtes un fervent défenseur justement vous luttez contre toutes ces ostracismes, cette discrimination. Parlez-nous de votre activité et je vous demanderai aussi un commentaire sur ce que vient de nous décrire Mathias Hott.
Mais je suis Hermann Ebongué, donc secrétaire général de SOS Racisme. Pour rebondir sur ce que disait le délégué interministériel, Mathias Hott, effectivement, je crois que SOS Racisme, nous qui sommes militants aujourd'hui, j'y étais pas à sa création, mais nous avons hérité de quelque chose qui est fondamental, qui est le corps même, le corpus des SOS Racisme, c'est la lutte contre toutes les formes de haine, de discrimination, de racisme, d'antisémitisme, et sans particularisme, effectivement, comme disait Mathias Hott, mais en tenant compte de chaque spécificité qui demande, qui est des actions particulières, et que dans ces actions-là, il y a quelque chose pour moi qui me tient vraiment, vraiment à cœur, c'est d'être clair dans le combat. la première des règles, la première des choses. On ne peut pas lutter contre le racisme, les discriminations, l'antisémitisme, la haine, contre l'homophobie, enfin, sans être clair dans la manière de le faire. Donc, on ne peut pas dire que je ne suis pas raciste, mais les Noirs. On ne peut pas dire que je ne suis pas antisémite, mais les Juifs. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Il y a un devoir de clarté dans le combat que nous menons. Et ça, ça a toujours été du cœur des SOS. Et je suis très, très attaché, comme l'a dit Mathias Roth, sur cette clarté. Parce que s'il n'y a pas de clarté, s'il y a des ambiguïtés, ben là commencent des fissures. Et moi, je ne suis pas pour ces fissures.
Je ne peux que souscrire à ce que vous dites. J'aime beaucoup. Merci de l'avoir dit. Merci de l'avoir dit. De dire le mais est très important. Vous avez absolument raison. Les acteurs économiques et sociétaux sont des personnes déterminantes aussi contre toutes les formes de discrimination. Et le logement est le premier vecteur d'inégalité. Et on l'a vu d'ailleurs avec le Covid, puisque les gens ont fait connaissance avec leur logement en travaillant chez eux. Et c'est là qu'on a vu les disparités qui sont liées au logement. Parce qu'à l'évidence, il n'y a pas plus inégal que le télétravail. Puisque celui qui a une maison avec un très beau jardin, il va vivre mieux, à l'évidence, que quelqu'un qui est dans la promiscuité et dans la précarité. Donc on voit bien que le logement a une importance. J'aimerais avoir votre avis, que vous commentiez, Lisanne, ce qu'a dit Herman et Mathias, justement sur ces sujets majeurs, et comment, au bout de votre point de vue, vous l'envisagez en tant que DGA du CISN.
Oui, alors effectivement, c'est très important, la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, et notamment dans le logement, puisque vous le disiez à juste titre. Le logement, c'est un accès à la société, c'est un accès au travail, c'est un accès à l'intégration d'une manière générale dans une société. Donc le logement social a son rôle à jouer, évidemment. C'est un moyen, notamment sur des territoires tendus, comme c'est le cas en Loire-Atlantique, de donner un accès à l'emploi, en premier lieu, notamment sur les territoires sur lesquels c'est très compliqué de trouver un logement. Et le logement locatif social, lui, permet à des personnes qui ne peuvent pas se loger sur le parc privé, particulièrement sur les territoires tendus, de pouvoir le faire dans le parc social et d'habiter à proximité de leur travail aussi. On travaille pour
Est-ce
ça.
Qu'on arrive à résoudre l'équation économique ? Parce que bien évidemment, nous sommes tous pétris de très bonnes intentions, mais le nerf de la guerre, c'est le financement. Le nerf de la guerre, c'est d'avoir des modèles pérennes qui accompagnent toutes ces politiques publiques à l'échelle locale, à l'échelle départementale, régionale et nationale. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous arrivez à conjuguer les deux ?
Alors, on a des aides pour ça. Enfin, on a des aides, on a des process et on a des territoires qui nous aident aussi à produire du logement, notamment avec des aides financières pour produire ce logement-là, avec de la captation foncière qui permettent de construire ces logements et en maîtrise d'ouvrage direct de manière à pouvoir produire ces logements et répondre à la demande.
Alors, on l'a vu d'ailleurs, Mathias, que le logement... J'exagère un peu, je vais faire mon journaliste, mais il y a un peu une forme de déterminisme social du trottoir sur lequel on est né, du bâtiment dans lequel on est né. Est-ce que tout est politique sur justement ce point de vue, de l'aménagement du territoire, de la répartition géographique, de la lutte finalement contre les communautarismes, entre guillemets, la concentration, lutter contre les formes de gentrification également, bien évidemment. Est-ce que tout est politique ? Est-ce que le politique peut tout résoudre ? Je caricature un peu, mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas également, dans votre mission interministérielle, de la pédagogie et de dire aux gens, c'est aussi à vous également de participer à cet effort collectif ?
Je retiens deux choses dans votre question. D'abord, effectivement, tout est politique. Et l'urbanisme, le logement, c'est un outil extrêmement politique. La politique, c'est la vie de la cité. Et quand on parle de vie de la cité, on parle forcément d'urbanisme. On parle de choix d'urbanisme, on parle de choix en matière de logement, et en particulier en termes de logement social. Deuxième élément, il faut faire de la pédagogie sur le logement social. Moi, je suis un amoureux et un grand défenseur du logement social. J'y ai vécu, j'y ai grandi, moi aussi, y compris dans un quartier populaire. Et je pense que le logement social charrie encore aujourd'hui énormément de stéréotypes, puisqu'on parle de discrimination, on peut parler de stéréotypes, dans l'esprit de nos concitoyens, dans l'esprit aussi parfois des élus locaux, avec, on est entre nous, donc on peut dire les choses, le logement social, c'est pour accueillir des dalots. Non, le logement social, c'est 80%, je pense, à peu près aujourd'hui au niveau national, de gens qui bossent, des salariés qui ne peuvent pas aujourd'hui accéder au logement privé, parce que pour des conditions sur lesquelles on reviendra, et des gens qui bossent et qui ont besoin, pour continuer à bosser, d'avoir un toit sur la tête. Et le logement social, c'est fait pour les salariés aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de caricatures qui sont faites autour du logement social, qu'il faut lever, notamment auprès des élus, si on veut construire plus de logements sociaux. Et ça rejoint aussi la question derrière de la lutte contre les discriminations, parce que ce sujet est lui-même discriminé dans l'esprit des élus. Et donc je pense que la première étape, c'est de faire de la pédagogie, comme vous l'avez souligné.
Comment vous faites, justement, dans votre mission au quotidien ? Vous essayez... Vous faites un peu le grand écart également, puisque vous représentez également, vous êtes rattaché directement au Premier ministre. Bien évidemment, si on vous classe dans le gouvernement, on vous dit voilà, vous êtes de ce côté-là. Et pourtant, votre mission, finalement, quelque part, elle doit joindre finalement toutes les forces en présence. On y arrive facilement dans le climat actuel ?
Non, c'est pas simple. Et c'est intéressant ce que vous dites, notamment sur le sujet du logement et des discriminations en matière de logement, qui est un sujet qui est parfois. Non pas mis sous la table, mais dont on parle très peu, parce qu'on se dit les discriminations, ça concerne d'abord l'emploi, et puis les discriminations, quand on parle de logement, ça va concerner le logement privé, et avec SOS Racisme, avec la FNAIM, on a fait un travail important pour essayer de mettre cette question sur la table, sur le logement privé, mais alors discrimination en matière de logement social, on n'en parle jamais, hein. Alors qu'il y a des biais discriminatoires, les biais discriminatoires, ils sont dans toute la société, et donc ils concernent aussi le logement social, et c'est un sujet dont il faut parler. Parce que je reviens sur la question, la caricature qui est faite du logement social, qui serait fait pour les plus pauvres ou pour les dalots. Logement social, c'est...
Alors dalot, droit au logement opposable.
Droit au logement opposable.
Voilà,
vous le savez, il y a différentes catégories de logements sociaux. Mmh. Et il peut y avoir des biais discriminatoires dans la sélection des candidats. Et c'est un sujet sur lequel il faut s'intéresser. Et moi, mon rôle, pour finir répondre à votre question directement, en tant que délégué interministériel, il y a le mot interministériel, c'est d'aller voir les différents ministères pour leur dire le sujet des discriminations, c'est un sujet important. Et quand je voir la ministre du Logement. Bien sûr que sa priorité, c'est la relance de la production du logement et la relance de la politique de l'offre, mais moi, je suis un peu le mistigri pour lui dire aussi ne pas oublier la question des discriminations, c'est important.
C'est fondamental. Herman, une réaction.
Oui, mais tout à fait. Je crois que la question de la lutte contre les... D'abord, du logement. C'est quoi le logement ?
Oui, le logement.
Le logement, ici, c'est la vie. Parce que quand on n'a pas de logement, on ne peut pas avoir une vie. On ne peut pas s'émanciper. On ne peut pas avoir une famille, on ne peut pas fonder une famille, on ne peut pas.
Quand on n'a pas. C'est quoi ? C'est un marqueur social ?
Non, mais c'est même un marqueur humain.
Oui.
Mais vous imaginez bien que si vous n'avez pas de logement, si vous n'avez pas d'habitat, vous ne pouvez pas vous émanciper, vous ne pouvez rien faire, vous êtes totalement hors de la société, vous êtes au bord de la société. Et donc, de ce point de vue, et je rejoins totalement Mathias dans ce qu'il disait, c'est que le sujet du logement, et notamment la question des discriminations dans le logement, a beaucoup été mis sous le tapis. Pensant que les discriminations, ça concerne que l'emploi, et une fois qu'on a l'emploi, tout est réglé. Mais non, ce que nous avons constaté, c'est qu'on peut même être travailleur, on gagne ses vies, on n'arrive pas à trouver un logement, aussi bien social que privé, pour des raisons de discrimination. Et c'est dans ce sens que nous avons fait ce partenariat avec la FNAIM, justement avec l'accompagnement de la DILCRA, pour à la fois former, expliquer, faire de la pédagogie, parce que au fond, le combat qui est le nôtre sur ce sujet, c'est pas uniquement un combat idéologique, c'est pas uniquement un combat, bien sûr qu'il peut l'être, mais c'est pas uniquement un combat qui repose sur du droit, mais ça nécessite aussi beaucoup de pédagogie, ça nécessite beaucoup de formation, ça nécessite beaucoup de prévention, justement pour rassembler, pour essayer.
C'est une approche très humaine. Très humaine,
oui,
finalement. Au-delà même, finalement, de la contrainte du droit ou d'une loi, vous insistez sur le caractère de l'engagement personnel.
Je suis très attaché, et c'est l'origine de tout le travail que nous faisons avec la FNAIM et la DILCRA et d'autres. Et que je pense qu'il y a dans la société, il y a besoin d'apaisement. On ne peut pas régler tout à travers le conflit, à travers la confrontation, à travers... bien sûr qu'il faut le respecter, ça je suis très attaché à ça, mais en même temps je pense qu'on peut faire un travail comme on le fait dans des écoles pour les jeunes, pour les enfants, pour les éduquer, pour apporter quelque chose de compréhensible et lisible. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait qu'il y a à boire et à manger partout, chacun essaie de faire comme notre rôle à nous, avec l'accompagnement des institutions, c'est d'aller certes condamner, mais aussi d'outiller, d'apaiser, de discuter, de faire comprendre que les discriminations n'ont pas leur place dans notre société. Parce que les discriminations fissures, les discriminations, le racisme, l'antisémitisme brisent la société, brisent humainement, individuellement, chacun d'entre nous. Et donc, comment est-ce qu'on peut y faire face ? Bien sûr, la fermeté, de la République, des valeurs de la République qui sont non négociables, mais en même temps, il faut que la République, à travers nous qui la représentons d'une certaine manière, l'État, les associations, les organismes qui sont rattachés à l'État, de tendre la main, d'offrir finalement à la société, c'est pas simple au quotidien, et moi je conviens tout à fait et le rôle de Mathias qui n'est pas si simple que ça, parce que je sais très bien comment la DILCRA, elle est demandée, elle est sollicitée partout, parfois ceux qui ne comprennent pas et qui confondent la DILCRA ou par la politique de gouvernement, etc., etc. Mais je suis très attaché et je reconnais le travail qui a été fait par la DILCRA, notamment sur le dernier plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations de manière générale, parce qu'il y a toujours ces plans qui sont mis en place. Et effectivement, Mathias l'a dit tout à l'heure, peut-être pas suffisamment, pour que en France, la France a cette spécificité d'avoir, même si c'était une directive européenne à la base, d'avoir cette autorité. Aujourd'hui, la France est le seul pays européen qui couvre l'aspect, le périmètre total de toutes les haines et qui a beaucoup travaillé, parce que nous travaillons beaucoup justement avec eux, la DICA, et on peut toujours discuter. Et je vois très bien comment les moyens, même financiers, ont été mis en place pour justement donner la possibilité à la DILCRA d'accompagner des structures comme SOS Racisme et bien d'autres. Donc il y a une volonté. C'est à nous donc maintenant de prendre accord et d'expliquer à la société, aux politiques même parfois, parce que effectivement...
Aux entreprises également.
Aux entreprises, bien évidemment, comme on l'a fait aussi bien sur le plan social que privé. Nous l'avons fait et nous devons continuer à le faire, tel que nous ne le faisons pas suffisamment, parce que la tâche, elle est immense.
Immense, bien sûr.
La tâche, elle est immense.
Immense.
Mais je pense que si nous voulons, face à la situation que vous décriviez au début, si nous voulons régler un certain nombre de problèmes, je pense que ça passe effectivement par cette question qui est fondamentale, comme je l'ai dit, la question du logement, la question même du vivre ensemble. Parce que quand on dit logement tout de suite, on appelle ce vivre ensemble. Vous avez décrit les Menguettes, vous avez grandi et pas là. Mais moi, quand je suis arrivé à Essouès, j'entendais parler des ghettos. On nous parlait des ghettos. Et un ghetto, c'est pas que physique, ça devient aussi mental.
Mental, absolument.
Ça devient mental, ça devient absolument intellectuel.
Absolument. Parce que, et on finit par croire qu'on n'est pas capable de vivre ailleurs.
Exactement. Et qu'on est marginalisé.
Et que le seul destin que nous avions, c'était de garder le logement social de la famille.
Et ça crée des boucs émissaires, crée des frustrations,
des replis,
des
tensions,
des rejets, et tel devient le bouc émissaire, et c'est à cause de tel, c'est à cause des juifs, c'est à cause du noir.
En fait, il n'y a pas d'effet sans cause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause, on ne peut pas expliquer ça. Herman, je me reconnais beaucoup, aussi dans le parcours également, on ne peut pas l'expliquer justement sans décrire le malaise social qui règne avec justement cette artère fémorale qui coule dans l'urbain, qui est celui de l'économie, de l'éducation et de l'orientation. Puisque du lieu dans lequel vous vivez va déterminer la circonscription du lycée qui va vous accueillir, dans lequel vous allez faire vos premières armes. Être déterminé également les mobilités. Et croyez-moi, quand on a du mal à bouger de la cité ou d'un quartier qui est excentré, c'est une galère totale. Également les bassins d'emploi qui finalement en fait se déportent de plus en plus loin des lieux d'habitation dans lesquels on a confiné une partie de la population, il faut le dire. Voilà. Et s'éloigner de l'emploi, c'est sombrer absolument dans la précarité. Justement, c'est là que le logement social est intéressant. Et ce que vous faites est majeur, parce que vous rompez cette chaîne finalement. Ça fait peut-être un peu pompeux de le dire, mais vous savez, dans le préambule du livre des Misérables de Victor Hugo, il y a un préambule sur ce qu'il appelle la damnation sociale. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce préambule. Il disait « Des personnes de là d'où ils vivent sont vouées naturellement à la damnation sociale. » Comme si ce déterminisme-là... Et il dit la chose suivante, il dit « Tant qu'il existera ces différences, des livres comme celui-ci pourront ne pas être inutiles. » Et ensuite, on entame le premier cycle des Misérables. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ce que vous faites, vous, en tant qu'entreprise, c'est former quelque part, et je pense que le symbole est important, c'est une rupture également, une rupture avec quelque chose qui est clairement entendu. Parce que les pauvres, on ne veut pas les voir. parce que des personnes qui sont trop différentes, on ne veut pas les voir. Vous avez raison, Herman, quand on dit, on parle des personnes qui viennent d'Afrique en disant, oui, soyons transparents, c'est important ce que vous dites. Je reprends le mot. C'est pas oui, mais, c'est oui, point. Oui, non négociable. Assumons le fait.
La responsabilité des bailleurs sociaux, elle est importante là-dedans, effectivement. Et notre rôle, c'est de construire des logements. Enfin, on a un rôle dans l'accès au logement, mais également dans la construction de nos logements. Et en cela, on est aidé par la loi SRU, hein, qui permet d'avoir un logement qui est intégré dans la ville et dans les quartiers. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir lutter contre la stigmatisation d'une adresse. Il faut du logement qui soit intégré, qui soit du logement de qualité, qui ne ressemble pas à ce qu'on peut dans l'imaginaire appeler du logement locatif social.
Et il est accessible à tous.
Et qui soit accessible. Donc il y a la question de l'acte de construire, avoir quelque chose qui soit intégré dans un quartier, qui soit dans un immeuble même, hein, des logements sociaux dans un immeuble dans lequel on n'a pas que des logements sociaux, c'est aussi une forme d'intégration. Et c'est important parce que du coup, il n'y a pas de stigmatisation à l'adresse. Donc on a ce rôle dans l'acte de construire et ensuite dans l'acte d'attribuer les logements.
Malheureusement, le temps m'est compté, je passerai bien une heure ou deux avec vous. Alors, je vais vous faire un truc qu'on ne fait pas normalement, mais je vous prends en otage devant tous les auditeurs et je vous dis, est-ce que vous reviendriez pour une heure d'entretien dans nos studios à Paris? Herman, vous êtes d'accord?
Oui, bien sûr.
Bah, trois fois oui.
vous venez. Alors, l'invitation est lancée. Je vais lancer un grand dossier là-dessus. Ça tombe bien, puisque vous êtes là présent pour un grand débat, parce qu'on ne peut pas résumer une question aussi complexe en 20 minutes, bien évidemment. Prenons le temps et donnons le temps au temps. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, les gens écouteront avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Un immense merci à vous, Mathias. Je rappelle que vous êtes délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et vous êtes rattaché au Premier ministre. Merci d'être venu sur le plateau. Un immense merci à Herman Ebongué. Merci.
Vous
me reconnaissez beaucoup dans ce que vous dites. C'est un vrai plaisir de vous avoir. J'en suis très honoré. Vous êtes secrétaire général d'SOS Racisme. Bon. Et merci également à Lisanne Lehay. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe du CISN à Saint-Nazaire. Et vous êtes le bienvenu, bien évidemment, sur le plateau avec Mathieu. Et vous venez, on va faire. On est en plus, vous ne pouvez pas vous tromper. On est dans le centre de Paris. On est à côté. On est au 124 rue Remur dans les studios de Radio Imo. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va enchaîner tout de suite avec la suite de nos programme et je vous souhaite un excellent salon.
Merci.
Le 85e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat en partenariat avec Procivis, Ista, Salvia Développement, Sepia et ACT Commodities du 23 au 25 septembre 2025 sur Radio Imo et Radio Territoria.